Bonjour, Gabriel Seban, je vous présente cette émission spéciale. Kaboul, capitale de l'Afghanistan. Ce pays au sud-est de l'Asie centrale compte 41 millions d'âmes. D'ouest en est, il est entouré par l'Iran, par trois pays de l'ex-URSS, le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, puis par la Chine, et enfin au sud-sud-est, sur une très longue frontière, par le Pakistan. L'Afghanistan est un carrefour stratégique. Fin du 7e siècle, l'islam s'y est implanté. Ce pays a été sans cesse l'objet de conflits. Leur cause ? L'influence de pays voisins, les oppositions intérieures entre ethnies pachtounes et tadjiks, mais aussi les oppositions entre villes tournées vers la modernité et campagnes plus traditionnalistes aux mains des oulémas. Et puis, il y a les luttes pour le contrôle des ressources minérales essentielles à toutes nos technologies et celles non moins financières des gisements de pierres précieuses. Les contrôles de ces ressources par des réseaux mafieux, soutenus par les talibans, sont particulièrement meurtriers. 40 années de guerre depuis 1979. D'abord, 10 ans d'occupation militaire des soviétiques en soutien au gouvernement communiste de Najibullah. Puis, une guerre civile entre différentes factions moudjahidines à la chute de Najibullah. La prise de pouvoir en 1983 par les talibans et les pachtounes salafistes, malgré la résistance d'une alliance du Nord. Les talibans furent chassés par l'alliance du Nord, qui reprit le pouvoir, soutenu militairement par les États-Unis. Depuis 2001, 20 ans de guérilla par ces mêmes talibans. Et le 15 août 2021, les talibans reprennent le pouvoir à Kaboul après le départ des troupes américaines. Une crise humanitaire sans précédent sévit dans le pays. La famine s'ajoute au régime ultra-radical, violent et barbare dont est victime la population. Je ne voulais pas demeurer étranger aux difficultés des réfugiés afghans. J'en ai donc interviewé 5 durant le Festival des Solidarités qui s'est déroulé à Lucé en fin novembre dernier, 2021. Et voici ce que j'ai retenu. D'abord, Gjujastar. Elle a 23 ans et était médecin depuis un an dans un hôpital de Kaboul. Et je lui demande pourquoi elle a quitté l'Afghanistan.
Juste après l'arrivée des talibans, le 13 août à Kaboul, donc les talibans ils sont entrés dans chaque hôpital et après ils disaient aux femmes de rentrer chez eux.
Et c'était dangereux?
Justement, rien que voir les talibans, on avait penser qu'on est en recul de 20 ans. C'était terrible, rien que leur visage.
Qu'est-ce qui vous a fait décider de partir
زمانی که من دیدم از 13 اگست که اونا
justement quand j'ai vu que les talibans ne laissent pas les filles au travail, donc j'étais obligé de rester à la maison. Donc quand, deux jours plus tard, donc j'ai réfléchi que toutes les années que j'ai fait des études, 7 ans pour les études supérieures et 12 ans à l'étude secondaire, donc je ne pouvais pas rester sans rien faire.
Le fait de choisir de partir, ça pose des problèmes de laisser derrière soi sa famille, son pays. Comment est-ce qu'on décide de tourner la page?
Justement, il faut vraiment avoir beaucoup de courage pour décider de quitter le pays et laisser tout derrière soi. Mais c'est le seul danger, c'était le danger de taliban.
Et la famille?
Ma famille?
Ma
famille était avec moi, mais quand j'ai montré mes documents à l'ambassade, ils ont m'autorisé à moi, qu'à moi.
Pourquoi?
Justement, comme j'étais un médecin, et ils savaient que je travaillais avec des étrangers, donc moi j'avais beaucoup plus de risques que ma famille. Et en plus, il y avait beaucoup de monde, donc ils ont choisi que voilà, comme j'étais un médecin, donc il fallait qu'ils me sauvent. Ils ont sauvé ma vie, en fait, quelque part.
Et donc, on décide, dans l'instant, de partir malgré tout.
Justement, quand les talibans sont arrivés, tous les Afghans, ils pensaient que c'est notre mort qui va se rapprocher. Donc tout le monde, vraiment, dans n'importe quel moyen, donc même quand on a vu les images, qu'ils ont même attaché à un avion pour vraiment, à tout prix, quitter le pays. Parce que chaque Afghan, il pensait que maintenant, c'est ma mort, en fait.
Et justement, partir comme tout le monde voulait partir, comment ça s'est passé, notamment à l'aéroport?
L'ambassade de France, il nous a hébergés pendant deux nuits. Et après, vers 2h du matin, ils ont embarqué dans un bus pour aller à l'aéroport.
Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous êtes monté dans l'avion?
Même quand on était dans l'avion, en avion, et même quand on était arrivé à Dubaï, donc on n'avait même pas pensé qu'on était sauvé. Toujours on pensait que c'est pas facile de s'échapper aussi simple.
Donc elle est passée par Dubaï.
Oui.
Pendant le trajet, qu'est-ce qui se passe dans la tête?
C'était un moment vraiment terrible pour tous les Afghans. Parce que tous les Afghans, ils avaient laissé leur famille, leurs enfants, leur vie. Donc c'était un moment vraiment assez effrayant.
Est-ce que vous avez des contacts encore avec vos parents et par quels moyens?
Après son départ, sa famille est partie au Peshawar, au Pakistan. Donc après, il a reçu des nouvelles, en fait, qu'ils vont bien et ils sont toujours au Pakistan.
Est-ce que le fait d'être culturellement différent vous pose un problème en France?
Non, au contraire. Au contraire, en France, on est bienvenus. Et au contraire, ils nous aident pour vraiment mettre nos papiers, pour vraiment demander notre asile. Et ça nous aide. Au contraire, je ne sens pas de danger imminent comme je l'avais vécu en Afghanistan.
Qu'est-ce que vous pensez des Français?
De toute façon, je remercie énormément les Français. Dès le départ, ils nous ont aidés humainement et c'est une aide humanitaire qu'ils nous ont accordée. Donc, je suis reconnaissant de tout ce qu'ils ont fait.
Quelles difficultés vous rencontrez pendant cette période où vous attendez effectivement la validation de l'OFPRA?
La difficulté plus importante, c'est que je suis tout seul et loin de ma famille, que je vis ici tout seul. L'énorme difficulté, c'est que j'ai laissé tout ce que j'ai acquis là-bas. J'étais médecin. Donc, par contre, là, en France, je suis obligé de recommencer de zéro pour arriver à cette étape que j'étais déjà arrivé. Et ça, je savais que là-bas, j'étais quelqu'un qui pouvait aider mon pays. Que là, maintenant, je sais que je suis incapable. Il fallait que je recommence à zéro.
Comment vous projetez à l'avenir, dans l'avenir?
Ça, je sais bien que j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais devenir. Ça, c'est sûr. Et en plus, c'était très difficile en fait, pour moi de laisser tout ce que j'avais vécu et laisser mon pays et venir en France. Donc vraiment, ça, c'est la difficulté qu'actuellement, je ne sais pas comment je vais devenir.
Est-ce que vous êtes croyante?
Oui.
Est-ce que ça pose un problème en France?
Comme je suis musulmane, et être musulman, ça ne veut pas dire que, ça veut dire qu'il faut être aimable avec tout le monde. Donc, je ne pense même pas une seconde que je serai, que ça pose un problème d'être en islam.
Vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup de misère en Afghanistan et de besoins. Comment cela vous fait réagir par rapport à votre mise en sécurité aujourd'hui?
Justement, c'est très difficile en fait, de faire quelque chose dans un pays, arriver à un certain point et laisser tomber tout ce qu'on avait fait et recommencer une autre vie. Donc forcément, c'est pas anodin. C'est très difficile. Et je voudrais rajouter que je dois faire des combats et continuellement pour les femmes et les enfants des Afghanistan. Et je dois faire des associations d'ici à droite à gauche pour vraiment donner soulever les voix des femmes afghanes.
Nous sommes fin novembre au Festival des Solidarités à Lucé et je recueille maintenant les propos de Abdullah Hamid, photographe et réalisateur à Kaboul.
Abdullah Hamid Mandegar,
je m'appelle Abdullah Hamid Mandegar, je suis un photographe et je fais des films courts et je viens d'arriver en France le 23 août et je viens en France à cause de que les talibans a pris mon pays.
La culture que tu représentes, est-ce qu'elle était en danger par rapport aux talibans?
Alors, les talibans, l'idée des talibans, que c'est ça par rapport au cinéma et la culture de faire des films au cinéma, c'est interdit. Du coup, ça veut dire que c'est haram. Parce qu'ils ont vraiment extrémistes musulmans. Du coup, des gens qui font cinéma, par exemple des photographes, des acteurs, des actrices, ils sont pas musulmans. Ils sont pas musulmans. Du coup, c'est interdit ou c'est haram. Du coup, on est contre les talibans. Les talibans sont contre nous.
Mais alors, du coup, est-ce qu'il était en danger de quelque chose pour partir?
Oui, alors parce que je faisais un film en 2015, un film court en 2015, et c'était par rapport à cause de ça, cette film, les talibans étaient contre moi et j'étais en danger depuis 2015. Avec les talibans, j'étais contre les talibans avant aussi.
Qu'est-ce qui racontait ce film?
Alors, ce film, c'est par rapport à sport et deux enfants qui jouent au football, font des sports. Et un enfant qui est riche et deuxième, c'est pauvre enfant.
Et donc, entre cette différence de classe, riche et pauvre, qu'est-ce qui se passait?
Alors, le but, c'est ce que je veux montrer, que être capable d'accepter des autres et d'être gentil avec des autres, que, par exemple, rien peut faire différence entre nous. Et ce que je veux montrer dans ce film, c'était ça, qu'on est capable d'accepter des autres, pauvres ou riches, par exemple noirs et blancs. Et après, voilà, ce film, c'était par rapport à ça.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi le métier de photographe?
Oui, quand j'étais en Afghanistan, j'ai vu des gens, différents des gens, que, par exemple les enfants et des femmes qui n'ont pas un droit en Afghanistan. Du coup, j'ai choisi ce métier à cause de montrer pour des autres, pour le monde, qu'est-ce qui se passe en Afghanistan pour les enfants et pour les femmes.
Donc effectivement, vous saviez que vous preniez un risque de dénoncer des pratiques des talibans.
Alors oui, je savais que je suis être en danger par talibans. Mais je n'ai pas pu rester tout calme contre des choses qui c'est arrivé pour les femmes et les enfants en Afghanistan. J'ai pas pu rester tout calme et j'ai pas pu juste garder à gauche à droite. Et je voulais montrer pour tout le monde qu'est-ce qui se passe pour les enfants et les femmes en Afghanistan.
Et comment il est venu, il a choisi la France. Comment c'est venu qu'il se retrouve en France?
Alors, avant que les talibans aient pris Afghanistan, des gens qui font des films, les directeurs, je pense, ils sont en France, ils ont fait une liste de des gens qui font des films en Afghanistan. Du coup, mon nom, c'était dans cette liste. Par 270 personnes des gens qui font des films en Afghanistan, c'était dans cette liste. Et mon nom, c'était dans cette liste. Et après que les talibans ont pris le Kaboul, on est arrivé en France avec des militaires de la France.
Qu'est-ce qu'il a pensé quand il était dans l'avion? Est-ce qu'il avait l'impression qu'il laissait plein de choses derrière lui?
Alors, avant votre question, je voudrais ajouter un truc que par rapport au métier de photographe et cinéma. Les talibans, ils s'en fichent de que tu fais des bonnes choses, tu photographes des bonnes choses, tu veux des choses mauvaises. Mais sauf que si tu prends la caméra dans tes mains, ça c'est interdit pour eux. Ça c'est, par exemple, t'es pas musulman encore. Du coup, les talibans, ils n'acceptent pas des gens qui n'est pas musulman. Du coup, là, j'étais vraiment en danger. Et c'était 1h30 du matin, que j'étais dans l'avion. Et l'impression que j'avais dans l'avion, c'était, par exemple, que j'avais laissé toute ma vie en Afghanistan et j'ai rien du tout maintenant. Et voilà, c'était comme ça.
Comment il se projette dans son intégration en France ?
احساس میکنم اول یه احساس میکنم که امنیت دارم.
Alors là en France je me sens vraiment confortable en secure. Je me sens vraiment que il y a pas de quelqu'un derrière moi qui veut me tuer à cause de mon métier tout ça. Et je souhaite que je peux rester en France. Et après, voilà, je suis tellement content d'être en France.
On vient d'écouter Abdullah Hamid, un photographe et réalisateur qui a dû quitter son pays, l'Afghanistan. Et c'est au tour maintenant d'un jeune Afghan de 25 ans de s'exprimer. Il aidait son père dans leur propriété agricole au pays.
Et je suis en France depuis 23 août 2019. Et quand j'étais en Afghanistan, mon père était agriculteur. On a fait des agricultures en Afghanistan.
Quand tu es parti, tu étais obligé de partir ou tu te sentis obligé de partir?
Alors j'étais vraiment obligé de partir parce que je me sens directement en danger en Afghanistan. Du coup, je suis parti d'Afghanistan.
Et pourquoi tu étais en danger?
Parce que c'était les problèmes familiaux que voilà, je devais partir d'Afghanistan.
D'accord. Et ces problèmes familiaux, est-ce que c'était des problèmes religieux?
Non, ce n'était pas problème religieux, c'était problème de l'argent et la terre. Et de la maison, de l'argent, c'est tout.
D'accord. Ouais. D'accord, je comprends mieux le problème familial, effectivement. Ouais. Il y avait une difficulté à pouvoir vivre. Avec des ressources, c'est ça?
Oui.
Et comment tu as décidé de partir? Comment ça s'est passé dans ta tête?
Alors, après que mon père était assassiné par ses cousins ou son oncle, du coup, après mon père, c'était... Moi, je suis unique fils de mon père. Du coup, tout son territoire, c'est après mon père, c'est à moi. Du coup, l'oncle de mon père, elle m'a dit que si tu veux signer les papiers, que voilà, c'est la terre de mon père, c'est pas à mon père, c'est à toi, à mon oncle de mon père. Du coup, moi, je voulais pas signer, je voulais rester, par exemple, pour combattre. Avec mon oncle et mon père, mais ils ont vraiment été dangereux pour moi. Ils ont vraiment été dangereux pour moi. Par exemple, ils ont avec contact avec les talibans, tout ça. Et voilà. Et après, j'ai décidé. En fait, c'était pas moi qui décidais de partir d'Afghanistan parce que j'avais presque 19 ans, 18 ans. Du coup, ma mère qui a décidé de partir d'Afghanistan. Ouais.
Ça fait combien de temps que tu es là en France?
Ça fait presque 2 ans.
Et comment tu vis?
Je vis comme un vie normale, quoi.
Oui, mais comment? Est-ce que tu peux travailler? Est-ce que tu as eu des papiers en règle? Comment que ça se passe?
Oui, ça fait presque un mois et demi que j'ai eu mes papiers. Avant, j'étais dans la procédure de blanc parce que j'étais en Suède avant. Mais maintenant, oui, j'ai eu mes papiers et maintenant je travaille aussi. Je suis dans l'équipe polyvalent au McDo.
Comment tu penses ce qui t'est arrivé dans ta vie?
Alors, dans ma vie, ça arrivait plein de choses différentes. Par exemple, des problèmes familiales, des problèmes des pays qu'ils n'ont pas accepté tellement, les familles aussi. Et des problèmes religieux, parce que je suis converti en christianisme. Du coup, il y a plein de gens, de musulmans, qui jugent tout de suite. Et après, ils racontent, mais ils pensent pas que c'est une religion, c'est un truc personnel, quoi. Mais à cause de ces problèmes, j'avais une vie vraiment difficile. Mais maintenant ça va.
Et comment tu te projettes sur l'avenir? Comment tu vois l'avenir pour toi en France?
Alors, j'ai choisi de venir en France parce que quand j'étais en Suède, la situation, ça va pas pour moi. Du coup, je suis venu en France par rapport à papier, tout ça, mais je découvre que la France, c'était tellement mieux pour moi que Suède, quoi.
Pourquoi?
Parce que, en Suède, ils me demandaient beaucoup de choses que je n'avais pas. Par exemple, la certificat de morture de mon père, tout ça. Moi, je n'avais pas. Par exemple, en Afghanistan, j'ai dit que dans la journée, il y a 1000 des gens qui meurent, mais il n'y a pas de certificat de morture. Et après, les documents de terre, tout ça, moi, je n'avais pas. Du coup, ils ne voulaient pas que je reste en Suède. Et, mais en France... Quand j'ai dit que voilà, je suis un Afghan, j'ai un problème comme ça, ils me croient, des gens. Oui, là, c'est des gens, comment dire ça? Il y a droit des gens, c'est plus respectable que dans des autres pays.
Comment tu as appris le français?
Alors, quand j'étais dans la procédure de Dublin, du coup, j'avais beaucoup de temps pour rester. J'étais vraiment disponible tout le temps. Du coup, j'ai connu un ami qui s'appelle Franck Hajjaj. Du coup, il est chanteur. Et après, il m'a aidé apprendre français. Et on a fait cours de français, par exemple, deux fois, trois fois dans la semaine. Du coup, 18 mois.
Qu'est-ce qui a été le plus dur quand tu es arrivé en France? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi?
Le plus dur, pour moi, c'était la situation des permis de résidence que je n'avais pas.
Est-ce que ça a été difficile de prendre la décision de partir? D'Afghanistan.
C'était tellement dur de partir d'Afghanistan parce que j'ai laissé toute ma vie derrière moi là-bas en Afghanistan. Enfin, l'argent et la terre, les fermes, c'est par exemple, c'est des choses financières, des choses qu'on laisse derrière. Mais la vie, le corps de mon père et après tout ça, les mémoires que j'avais en Afghanistan. Que j'étais enfant, du coup, on a laissé toute ma vie en Afghanistan. Voilà.
Et du coup, tout ça, tu l'as abandonné à ta famille qui voulait te récupérer ce bien-là.
Oui.
Aujourd'hui, si tu as des enfants, quelles sont les choses importantes que tu voudras leur transmettre?
Alors, ce que je veux dire, ce que je veux apprendre pour mes enfants après, pas maintenant, parce que je n'ai pas d'enfant. Je veux apprendre pour mes enfants que la priorité dans pour nous, c'est des humains, de droits des humains et des humains. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la terre, c'est pas... Ok, enfin, on a besoin d'argent pour vivre, mais ce n'est pas la priorité.
Et qu'est-ce qui est la priorité?
Pour moi? Pour moi, c'est des humains.
Et mais quoi dans l'humain?
D'être gentil, de soi gentil, ça coûte rien.
Walidi hal, صدرت بشوي تأهوال نوي زد بيام تلري لار تصار
Radio Grand Ciel.
À Fessistol, il n'y avait pas que des Afghans qui venaient d'arriver en France. Il y avait aussi Esmak, la cinquantaine passée, venue en France il y a 40 ans. Il a évoqué ses souvenirs et son départ durant l'occupation soviétique. Son fils de 25 ans, né en France, l'a écouté, avant de s'exprimer à son tour devant son père.
En 1985, je suis venu en France. Et en Afghanistan, j'étais étudiant en licence d'agriculture, faculté d'agriculture, agriculture. Donc voilà, à peu près à l'âge de 20 ans, 21 ans, je suis atterri en France.
Et donc, vous venez de quelle région ?
Moi, je suis de Kaboul même, oui.
D'accord.
Tout à fait.
Et quand vous êtes arrivé en France, qu'est-ce qui... Alors, avant d'arriver en France... Qu'est-ce qui vous a fait venir en France ?
C'est long, c'est très long en fait de m'exprimer pour le sortir, parce que quitter le pays, c'est pas quelque chose anodin. On ne peut pas quitter le pays sans avoir des raisons assez valables. En plus, le contexte où on était, c'était vraiment l'invasion de soviétique. Et vraiment, le jour où on a décidé de quitter le pays, vraiment, c'était très très dur. Mais bon, on a quitté le pays d'un moment vraiment...
Et qu'est-ce qui vous a fait concrètement, qu'est-ce qui vous a décidé à quitter le pays concrètement?
Concrètement, on était en fait en face de vivre et mort en fait. Parce que si on restait un petit peu longtemps, on était exécuté comme les autres Afghans qui étaient exécutés à l'époque.
Pour quelles raisons exécutés?
On était contre le gouvernement, soviétique. Et ils savaient bien, on ne suivait pas les partis communistes de l'Afghanistan. Et les partis communistes, ils savaient que dans le cas, si les Afghans qui ne leur suivent pas, il faut qu'ils le mettent à faire. Nous, on était étudiants et les étudiants, c'était les gens intellectuels, en fait, qui ne voulaient pas le mettre en avant.
Vous étiez menacé personnellement ?
À la famille. Ma famille était menacée, tout à fait.
De quelle manière ?
Risque de prison, en fait, emprisonnement, parce que l'un de mes frères était emprisonné, et ils ont exécuté mon frère, et mon oncle s'était exécuté. Donc, et ma soeur, qui était en faculté de théologie islamique, donc elle a été menacée par les communistes. Et là, donc, on a décidé vraiment de la famille, on a quitté le pays pendant la nuit, en fait, tout simplement.
Qu'est-ce qui vous a fait décider de venir en France ?
En France, vraiment, c'est la fatalité. Parce que nous, au départ, on ne savait pas où on devait atterrir. Donc nous, on a quitté le pays pour aller au Pakistan. Et après, donc, on ne savait pas. Vraiment, nous, quand on a quitté le pays, on a essayé de vraiment sortir du pays, surtout de Kaboul, et aller vers Pakistan. Donc on a passé pendant une vingtaine de jours et nuits par les chemins de montagne. On a quitté le pays. Et une fois qu'on est arrivé au Pakistan, là, on a essayé de recommencer à vivre, de recommencer à travailler, de refaire, de vraiment vivre, en fait, parce que normalement, il faut bouger, il faut faire quelque chose. Là, on avait même pas, on savait pas où on va partir. Donc, on voulait rester au Pakistan, plutôt.
Vous êtes parti avec de l'argent, avec des biens personnels ?
Des biens personnels, enfin, non, plutôt, on avait un petit peu d'argent, bien sûr. Mais tout ce qu'on avait, par la suite, ils ont mis dans le jardin, ils ont tout brûlé après notre sortie. Dès qu'on a quitté le pays, on a resté à peu près une semaine au Jalalabad. Donc c'est une ville juste à côté de Kaboul. Mais là, on a entendu parler que voilà, ils sont venus pour nous chercher, je ne sais pas, le lendemain. Et après, ils ont vu qu'on est parti. Donc ils ont mis tout ce qu'on avait, des livres, tout. Donc ils ont mis dans le jardin, ils ont brûlé tous nos livres, tout ce qu'on avait à peu près. Ça, on ne savait pas. Donc dès qu'on est arrivé au Pakistan, un mois plus tard, on a appris qu'ils ont arrivé, ils ont nous cherché. Et une fois qu'ils ne nous ont pas trouvé, donc ils ont brûlé tout ce qu'on avait à la maison.
Vous aviez encore de la famille en Afghanistan ?
Encore, j'ai de la famille alors, en Afghanistan, bien sûr.
Ils n'ont pas été victimes de votre départ par l'intermédiaire des assaillants, on va les appeler comme ça ?
Non, pas tellement. Pas. Ils ont pas. Vraiment, ils cherchaient nous peut-être, mais pas les autres membres de la famille. Enfin, les membres, c'était des cousins, cousines, qui étaient enfants, en fait.
Donc vous êtes passé par le Pakistan pour arriver en France par hasard ?
On est passé par le Pakistan et oui, tout à fait, une fois qu'on était on était au Pakistan, donc on est allé dans plusieurs ambassades de États-Unis, la France, donc des autres pays, pour vraiment trouver un issue pour sortir.
Et c'est la France qui a répondu uniquement ?
Voilà, la France qui nous a répondu uniquement, tout à fait, au départ, avant des autres pays.
Quand vous étiez sur le chemin qui vous menait vers le Pakistan, qu'est-ce qui vous passait par la tête ?
Là, franchement, on pensait qu'on ne pouvait pas vivre, donc parce qu'on était tellement vulnérables, on n'avait rien à se défendre. Donc, chaque fois, on était avec des passants, et les passants, c'était pas un seul interlocuteur. Donc, on avait plusieurs interlocuteurs, ils étaient organisés, mais nous, on ne savait pas. Donc, au bout de quelques montagnes, et après, les passeurs, ils nous passaient par un autre passeur, et ils s'est disparu. Donc, on connaissait pas les gens qu'on accompagnait. Mais juste, au départ, il nous a pris, ça me rappelle, si je ne me trompe pas, en fait, 6000 afghanis par personne, donc on est 5. Donc, il nous a pris 6000 afghanis à l'époque. Et après, il nous a dit qu'on vous amène au Pakistan. Et après, on ne pose pas de questions. Donc,
ça correspond à combien d'euros, à peu près ?
Écoutez, euros, mais à l'époque, en francs, c'est déjà, c'était beaucoup. Mais en euros...
Mais donc, c'était quelque chose qui était une somme importante par rapport à ce que vous aviez.
Bien sûr. C'était une somme considérable. Donc, ça fait 30 000 afghanis à l'époque de donner. Et en plus, on ne savait pas où on va partir. Mais là, on était vraiment très vulnérables. Donc, on a passé les nuits et le journée dans les montagnes. Mais ils savaient à quel endroit il faut arrêter pour manger un petit peu. Donc, on avait, ça me rappelle toujours, on avait du thé avec un petit peu de sucre et quelques morceaux de pain. Donc, ça, c'était notre repas. Plusieurs fois la même chose. Jusqu'à un moment où on est arrivé à Pakistan.
À quel moment vous aviez pensé que vous étiez sauvé?
Une fois qu'on est arrivé à Peshawar.
Ouais. Au Pakistan.
Au Pakistan. Ouais. Au Pakistan, c'était la mentalité complètement, ça change. Les gens, ils avaient des joies de vivre. On avait entendu vraiment des joies de vivre. Là, on a rendu compte qu'on a passé la frontière. Donc là, maintenant, on dit qu'on est sauvé.
Bon, vous arrivez en France, donc du coup, vous arrivez où?
En France, donc, ça aussi, comme on connaissait personne en France, donc dès le départ, on était allé à Puteaux,
voilà. Près de la Défense.
Voilà, exactement. Près de la Défense, et on est resté 18 jours. Après, il nous a demandé où on va aller, donc dans les centres pour les réfugiés. Donc, il nous a donné plusieurs villes. Nous, on a dit que, comme on était étudiants, donc moi j'étais jeune, je me suis dit, donnez-nous des villes proches de l'université ou des villes qui a des universités. Donc après, il nous a donné Gien, près d'Orléans. Donc on est allé pendant 6 mois à Gien, dans les foyers sous la Côte Rouge. On est resté 6 mois. Et là, on a recommencé la vie. Donc dès qu'on a compris au Pakistan que nos affaires sont brûlées, donc vraiment, nous, on a dit que maintenant, il faut qu'on recommence de zéro.
Donc, alors, ça fait quand même plus de 30 ans que vous êtes là.
Ça fait plus de 30 ans que je suis en France.
Et est-ce qu'il y a une différence que vous percevez entre il y a 30 ans et maintenant dans l'accueil des Français aux gens venant de l'étranger?
Oui, sûrement. Sûrement. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de réfugiés afghans déjà. Et on était, chaque fois qu'on rencontrait les Français, on était les seuls Afghans qu'ils avaient rencontrés. Et on avait un accueil vraiment chaleureux. Et donc, on avait une hospitalité assez importante envers nous. Mais là, maintenant, je crois qu'à force de différents réfugiés de différents pays, donc ça perd un petit peu leur sens de hospitalité, si je puisse dire. Je crois que ça rentre un petit peu dans les normalités, en fait.
Vous avez fait votre vie en France. Vous avez un fils. Est-ce que vous avez trouvé du travail tout de suite quand vous êtes arrivé dans votre région, on va l'appeler d'adoption?
Oui, moi, comme j'étais en troisième année d'université, donc à tout prix, je voulais refaire les études. Donc moi, je ne voulais pas chercher de travail. Donc à tout prix, je voulais vraiment commencer mes études. Donc c'est pour ça que j'étais vraiment, malgré que j'étais en troisième année en licence, je voulais recommencer. Je voulais recommencer par le bac, pour avoir mon bac, et recommencer mes études aux universités.
On ne vous donnait pas d'équivalence?
Mais heureusement, par l'ambassade de l'Afghanistan, j'ai pu obtenir un équivalent de bac d'Afghanistan, équivalent de bac français. Et là, je pouvais entrer dans l'université. Mais avant d'entrer dans l'université, donc, je voulais apprendre la langue. Bon, donc en ce moment-là, pendant 12 ans, j'ai appris la langue française.
Mais vous me dites que c'est l'ambassade qui vous a donné cette équivalence.
Oui.
Mais l'ambassade était consentante à votre départ?
L'ambassade de France, il donnait des équivalents pour les étudiants, enfin les élèves qui ont passé le lycée Istiklal. Et moi, j'étais de lycée Istiklal, donc c'était un lycée franco-afghan à Kaboul. Donc pour les lycées franco-afghans, l'ambassade de France, il attestait que cet élève, il a passé ses épreuves.
Quels ont été peut-être les moments difficiles à passer quand vous êtes arrivé en France?
Vous savez, choc culturel, c'est très important en fait, parce qu'on vient d'un pays de tiers monde, entre guillemets, et entrer dans un pays assez développé, donc c'est un choc déjà. Choc de la langue, choc culturel, ne comprend rien. Voir les images à la télé, il comprend rien. Donc tout ça, c'était des chocs à supporter. Et après, de recommencer à zéro. Et ne doit pas savoir un petit peu ce qu'on doit faire dans l'avenir. Donc tout ça, c'était des chocs. Parce que c'est pas anodin, en fait, quitter un pays et entrer en France. Et il faut vraiment refaire pour avancer.
Et votre projet, au moment où effectivement vous 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 lanciez dans une nouvelle vie, c'était quoi ?
Faire des études. Vraiment, je voulais recommencer mes études, d'ailleurs, ce que j'ai réussi. Donc, je suis entré par fac de lettres, 2 ans fac de lettres, après, je suis entré dans fac de sciences. J'ai passé ma licence maîtrise en biologie. Et après, là, donc.
Et pourquoi c'était si important ?
Je sais que les études, c'est la seule manière d'avancer dans la vie. Si on a des études, on peut aller plus loin. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais si on n'a pas des études, en ce moment-là, on reste en bas des échelles et après, on ne peut rien faire.
Qu'est-ce que vous diriez aux Français par rapport à l'accueil des Afghans aujourd'hui ?
Sachez que les Afghans, ou quels que soient les réfugiés qui entrent en France ou dans les autres pays, ils ont des énormes difficultés à traverser plein d'endroits pour arriver à certains endroits pour avoir la paix. Donc il faut vraiment les reconnaître tel qu'un être humain, en fait, tout simplement. Parce qu'un être humain, il a besoin de vivre. Donc un être humain est vraiment... La seule chose, c'est ça. C'est la seule, vraiment, seule... c'est énorme de donner la liberté pour un être humain qui vive comme il veut.
Le principe de culture ne vous a pas gêné culturellement pour vous intégrer ?
Moi, je trouve que tout ce qui est religion, c'est vraiment un rapport personnel avec personne, en personne. Ça ne relève pas en fait, de difficultés pour vivre. Parce que c'est quelque chose, vraiment, comment dirais-je, c'est entre personnes et son Dieu, si vous voulez, quelles que soient les religions. Donc, moi, je me demande pourquoi une religion pour bloquer la vie des gens. Je trouve que c'est vraiment, c'est, quelle que soit la religion, donc c'est la personne en fait, c'est au fond de la personne. Mais la religion fait vivre en fait.
Vous êtes le fils de votre père.
Je suis le fils de mon père, oui.
Et du coup, je vous pose une question peut-être un peu gênante face à lui, mais je la pose quand même. Est-ce que vous estimez qu'il a eu beaucoup de courage et de force pendant ces années d'intégration ?
Oui. J'admire la force de mes parents. J'admire le fait qu'ils aient tout fait pour nous offrir le cadre le plus sain possible. Durant toute mon enfance, en fait, j'ai grandi en France, je suis né ici. Et mes parents m'ont offert voilà, un cadre qui était... en fait, ils ont réussi à mettre de côté toutes leurs souffrances, tous les traumatismes qu'ils ont eu à vivre, pour nous offrir le cadre le plus sain pour que nous puissions nous épanouir en France pleinement et que nous puissions avoir toutes les clés pour réussir dans nos études par la suite, mais juste avoir une enfance épanouie.
Vous vous sentez afghan ou français ?
Je n'ai pas à me sentir français, dans la mesure où le simple fait que je sois né en France signifie que je suis français. En fait, je n'ai pas à prouver quoi que ce soit. Je suis automatiquement français du fait que je sois né ici. Donc ça, cette question, elle ne se pose pas. J'ai grandi en France. Je suis allé à l'école en France. J'ai eu tous les cours comme tous mes camarades de classe. Donc j'ai toujours été imbibé de cette culture française que je comprends puisque j'y ai été... que je comprends puisque j'ai été plongé dans cette culture toute ma vie. Mais je pense que la France est un pays multiculturel aujourd'hui, du fait de son histoire générale, du fait qu'elle ait accueilli aussi plein de personnes issues de pays différents. Et donc cette multiculturalité implique que je puisse me sentir aussi afghan. En fait, je pense que le fait que je me sente afghan également n'implique pas que je sois moins français. Et au contraire, je pense que le fait d'avoir cette vision du monde, parce que du coup la culture afghane est influencée par des millénaires d'histoire, que ce soit par le zoroastrisme, que ce soit par Alexandre le Grand, que ce soit par le soufisme aussi, tous ces textes, toute cette profusion artistique et culturelle de l'Afghanistan, on la voit à travers sa culture, je l'ai vu à travers mon éducation, et ça m'offre tout un pan, et ça m'offre aussi une vision du monde qui me permet de comprendre mon environnement de façon différente et que je peux additionner à ma culture française. Et moi, voilà, ça m'offre une vision beaucoup plus large que je peux appliquer dans la vie et qui me permet, je pense, de comprendre les gens dans leurs différences. Je pense que ça m'aide. Voilà, je pense que je suis les deux. Je suis français parce que je suis né en France, parce que j'ai grandi dans cette culture. Je suis afghan parce que j'ai aussi baigné dans la culture afghane. Et je ne pense pas que les deux soient en opposition.
Est-ce que vous estimez que le multiculturalisme est une chance pour les Français ?
Je pense que le multiculturalisme est une chance pour les Français, à condition qu'ils s'y intéressent, à condition qu'il y ait une discussion, des échanges, et à condition qu'il n'y ait pas une crainte, une peur et un rejet. Parce que dans la mesure où il y a de l'échange, les Français peuvent se rendre compte que... pour mettre de côté la peur et pour mettre de côté les appréhensions qu'ils ont vis-à-vis de ce multiculturalisme, et pourront se rendre compte de ce que ça apporte. Et à contrario, si les Français restent dans leurs a priori, dans leurs clichés, ça ne pourrait que renforcer cette crainte. Enfin, ça contribuerait à un cercle vicieux. Voilà.
Est-ce que vous êtes imprégné de la culture afghane jusque dans les rites et les pratiques, on va dire presque communautaires?
J'aime pas trop le mot communautaire. Dans le sens où on a chacun besoin, peu importe le milieu social et culturel, de se réunir entre personnes qui se ressemblent parce qu'on partage des valeurs, une vision de la vie commune, et on a besoin de se réunir entre ces personnes-là. D'ailleurs, la communauté afghane en France, on ne peut pas vraiment dire qu'elle existe, qu'il n'y en a pas, parce qu'il y a très très peu de personnes issues de l'immigration, et même s'il y en avait, elles sont issues de milieux sociaux et culturels très différents, parce que l'Afghanistan est un pays très large. Et donc, en ce sens-là, moi, je ne me reconnais pas en une communauté. Malheureusement, je ne pense pas qu'il y en ait véritablement en France, contrairement à d'autres personnes issues de l'immigration qui sont présentes en quantité plus grande, en nombre plus grand. Est-ce que je me reconnais dans les rites, dans les cultures, dans les traditions afghanes? Oui. Oui. Et je pense que ça fait partie de mon identité aussi. Et j'en ai besoin. J'ai besoin d'écouter de la musique afghane. C'est vraiment des choses qui peuvent paraître futiles, mais j'en ai besoin parce que ça fait partie de moi. J'ai besoin de fêter le nouvel an persan. J'ai besoin de la religion également. Et je pense que ça fait partie de la richesse. Je pense que ça fait partie de qui je suis, et je ne peux pas mettre ça de côté, comme on ne peut pas demander à mon père de s'intégrer en France, de s'assimiler plutôt en France. Bien sûr qu'on peut lui demander de s'intégrer, mais on ne peut pas lui demander de s'assimiler en oubliant sa propre culture, parce qu'elle fait partie de son identité. Si on lui demandait ça, ça impliquerait qu'on lui demande d'effacer qui il est. Et c'est en ce sens que je pense qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de s'effacer pour intégrer un pays. با آتشین خوی خود با آتشین خوی خود با تیغی ابروی خود با تیغی ابروی خود خون دل ریختی وای 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 ریختی بگریختی وای 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 خون دل
migrants. Sont-ils si différents de vous, de moi? Est-il juste de murer sa compassion devant un inconnu qui peut faire peur? les expériences difficiles que ces personnes ont et devront encore traverser, m'ont amené à poser des questions à Éléonore, une avocate qui défend le droit des migrants.
J'ai choisi d'exercer cette matière pour pouvoir venir en aide justement aux personnes qui arrivent en situation précaire sur le territoire français, dont les droits sont régulièrement bafoués, et pour les aider à obtenir un titre de séjour sur le territoire.
Est-ce que les situations que tu rencontres, professionnellement du coup, mais humainement aussi, t'amènent à revoir ta position sur les étrangers et sur leur humanité, on va l'appeler comme ça. Est-ce que tu apprends des choses à leur contact?
Oui, alors j'ai davantage appris à leur contact d'un point de vue privé, si je puis dire, parce que professionnel, il y a toujours la barrière avocat-client, on ne s'imagine pas, ou on ne s'imagine guère la souffrance que ça peut être pour une personne, justement, de vivre sans titre de séjour et de manière aussi précaire. Et on est confronté à la misère, pour le coup, de ces personnes-là qui sont sans titre de séjour, sans aide financière, parfois à la rue, si elles ne connaissent pas des personnes susceptibles de les aider sur le territoire. Et donc, c'est ce à quoi j'ai pu être confrontée dans l'exercice de cette profession.
D'autant plus que ces personnes-là, n'ayant pas de papier en règle par rapport à leur acceptation sur le territoire, elles ne peuvent pas travailler.
Alors, quand on est sans titre de séjour sur le territoire, effectivement, on n'a pas le droit de travailler, mais on n'a pas le droit non plus à des aides sociales. Tout ce qui est la CAF ou Pôle emploi, tout ça, c'est fermé. Donc on peut seulement compter sur la bonne volonté des personnes, soit associatives ou des connaissances sur le territoire. Et on peut remarquer aussi l'hypocrisie du système qui dit que les personnes sans titre de séjour ne peuvent pas travailler, mais en même temps, on leur permet, au bout d'un certain nombre d'années, de demander une carte de séjour salariée, dès lors qu'ils travaillent déjà. Donc il y a vraiment une hypocrisie dans la législation qui est incroyable.
Et comment procéder pour accepter le principe de cette aide, cette assistance à personne en danger, finalement? Comment accepter cette assistance à personne en danger en regard de l'augmentation constante du nombre d'arrivants?
Alors, c'est une question complexe. Je ne sais pas si je peux y répondre, mais après, c'est à chacun de faire ce qui est dans son pouvoir à titre individuel. Et c'est en cumulant ces expériences ou ces aides personnelles qu'on peut arriver, j'espère, à une aide pour le plus grand nombre.
Est-ce que vous validez le principe d'assistance à personne en danger?
Ah oui, dans ce contexte, dans certains contextes, et en tout cas, effectivement, tout à fait, oui.
Est-ce que les cas de figure vont jusqu'à du désespoir extrême?
Oui, j'ai déjà eu affaire à un client qui a fait une tentative de suicide. C'était un Afghan qui était Dublin. Donc, c'est-à-dire qu'on ne l'autorisait pas à déposer sa demande d'asile en France parce qu'il était déjà, qu'est-ce qu'il avait donné ses empreintes dans un autre pays de l'Union européenne, et que la France considérait que c'était ce pays qui était responsable de sa demande d'asile. Il ne voulait pas retourner dans ce pays puisqu'il risquait d'être renvoyé en Afghanistan, et il a sauté par la fenêtre. Voilà. Donc,
Y a-t-il matière à sensibiliser les personnes vivant en France, et je ne parle pas des étrangers, mais des Français cette fois, y a-t-il matière à les sensibiliser à cette souffrance et à cette misère-là, et comment?
Je ne suis pas certaine d'avoir la réponse à cette question. La raison pour laquelle aussi les gens ne se mobilisent pas, c'est la peur de l'inconnu et la peur de l'étranger. Le fait aussi de ne pas se sentir concerné par ces questions. C'est en provoquant, pour moi, des rencontres, peut-être, que ça peut permettre d'ouvrir les yeux de certaines personnes sur, sur la misère rencontrée par les personnes sans papier sur le territoire français en provoquant des rencontres. La personne n'est plus un inconnu et ça peut permettre de susciter des réactions intéressantes.
Est-ce que le principe de sauvegarde de sa vie sur le plan économique est pour vous le seul facteur moteur de cet abandon de tout ce qu'ils laissent derrière eux en quittant leur pays?
Alors non, il y a différents types de causes migratoires. Ça peut aller pour certaines personnes de la cause économique, mais on a aussi des causes qui relèvent de l'asile, asile politique par exemple, ou tout ce qui relève du contentieux de l'OFPRA et de la CNDA, ça n'est pas de la migration économique. C'est puisqu'on a les personnes ont des craintes de persécution en cas de retour dans leur pays d'origine.
Sur le plan de la législation, est-ce que vous pensez que la législation sur le droit d'entrée des migrants sur notre territoire doit être réétudié?
Oui, effectivement. Alors, je n'aurais pas la prétention de pouvoir dire exactement quelle devrait être la législation en la matière, mais ce que je constate, c'est que les personnes se mettent en danger pour pouvoir arriver sur le territoire français, et ça, c'est anormal.
Parmi les nombreuses personnes que vous avez eues à accompagner, est-ce que vous validez le principe souvent en cours dans la société qui consiste à dire qu'il y a possiblement parmi ces migrants des infiltrations de terroristes possibles, ou est-ce que finalement c'est entièrement de la misère et de la souffrance humaine que vous avez eu à traiter jusqu'à présent?
Effectivement, moi, j'ai jamais été confrontée à cette situation d'infiltration terroriste. Je pense que c'est plutôt une idée qu'on veut se faire de la migration. Même dans l'actualité, il ne me semble pas avoir eu vent qu'un attentat ou qu'une tentative d'attentat ait pu être perpétrée par une personne justement arrivée par ce biais. Voilà. Et moi, en tout cas, dans ma vie professionnelle, je n'ai jamais été confrontée à une telle situation.
Quel est votre point, je dirais, de sensibilité majeure en tant qu'avocate au problème des étrangers?
C'est difficile comme question, parce qu'il y a de la souffrance, en fait, dans plus ou moins tous les dossiers que je peux avoir. Le fait, en fait, d'être sans titre de séjour sur le territoire, c'est une grande souffrance. D'accord. Pour les personnes. Ça, je dirais que c'est la plus grande des souffrances.
Voilà. Merci à Judasta, Abdullah, au jeune Afghan qui préférait rester anonyme, à Esmaq et à son fils de m'avoir fait confiance. À vous de ressentir leur honnêteté, leur sensibilité, leur fiabilité et leur envie de vivre parmi nous.